Bonjour et bienvenue à Question de savoir, l'émission des cycles supérieurs de l'Université Laval présentée par l'ALI. Mon nom est Marie-Ève Duchesne et je suis attachée aux communications. Aujourd'hui, on parle d'équité, diversité et inclusion, ou EDI, au sein de l'ALI des cycles supérieurs, avec Perpétue Adité, vice-présidente aux affaires internes à l'ALI. Bonjour Perpétue!
Bonjour Marie, ça va bien?
Oui, ça va bien. Re-bienvenue à Question de savoir. On commence à s'habituer tranquillement, pas vite.
Ouais, c'est vrai.
Donc, aujourd'hui, comme j'ai mentionné, on va parler d'équité, diversité et inclusion. C'est un des enjeux très importants pour l'ALI. On a fait un webinaire lors des deux activités de la rentrée, que ce soit la rentrée UL et la foire des associations. Peux-tu donner des exemples, des trois concepts, et pourquoi c'est important pour nous d'en parler cette année?
Alors, merci Marie. Déjà, il faut dire que l'équité, la diversité, puis l'inclusion, c'est vraiment des enjeux très importants, comme tu le soulignais tout à l'heure, que ce soit pour l'Université Laval et également ses associations. Donc, à l'ALI, c'est vraiment des valeurs importantes pour nous. Donc, parlons d'équité, je vais y aller par concept. Donc, l'équité, c'est vraiment traiter chaque individu et chaque groupe historiquement défavorisé de façon juste. C'est également tenir compte des caractéristiques particulières de leur situation afin de les placer vraiment sur un pied d'égalité. Ça s'oppose également à l'uniformité de l'application systématique d'une norme sans tenir compte des différences. Et c'est également tenir compte des différences, là, comme je le disais, de chacun, pour que tout le monde ait les mêmes avantages en tenant compte des caractéristiques particulières de chaque situation. C'est également reconnaître que la structure sociale a des effets différenciés pour le groupe majoritaire par rapport au groupe minorisé. Et pour résumer, je dirais que c'est s'assurer que tout le monde ait droit aux mêmes avantages. Donc, on va vraiment parler d'égalité de chance. L'égalité de chance, c'est un concept qui va vraiment revenir même dans les objectifs de développement durable. On a l'ODD 10 qui parle des inégalités sociales. Donc, c'est d'offrir toutes les mêmes opportunités à tout le monde sans distinction. Donc, si je veux prendre un exemple, Marie, l'équité, on le voit là souvent sur les différents visuels pour schématiser. Pour illustrer un peu le concept, c'est par exemple si on veut suivre un match, mettons au niveau d'un stade, et qu'on a l'enfant qui n'a pas vraiment la possibilité de voir au travers, d'être assez élancé pour voir un peu ce qui se passe au niveau du stade, c'est d'offrir à cet enfant-là un tabouret, une chaise, pour qu'il monte dessus et voir justement ce qui se passe au moment où la personne qui est élancée n'a pas forcément besoin justement de se accommodement. Donc, c'est vraiment toutes les dispositions qui sont prises pour que tout le monde ait la même égalité de chance. Quand on ramène ça un peu au contexte de l'Université Laval, c'est sûr que nous venons de différents horizons. Moi, je viens, par exemple, avec une culture africaine. Je n'ai pas forcément la notion de comment ça se passe ici, les plans de cours, le portail, l'environnement numérique. Donc, c'est de me donner, par exemple, une formation justement à moi parce que je ne le sais pas, parce que je viens avec ce handicap-là, si on le dit ainsi. C'est pas vraiment un handicap, mais c'est un peu pour schématiser, pour pouvoir me permettre justement d'avoir les mêmes chances qu'un étudiant ou une étudiante qui a justement la culture académique canadienne ou québécoise. Donc ça, c'est vraiment pour l'équité. Quand on parle de diversité, là, c'est le deuxième concept qu'on aborde aujourd'hui. Ça fait vraiment référence aux différences et aux similarités entre les individus au sein d'une même organisation. Donc c'est vraiment le genre, le sexe, l'ethnicité, l'origine, le physique, la religion, les croyances, les valeurs, l'âge, l'éducation, la langue, l'orientation sexuelle. C'est vraiment des personnes dont les caractéristiques sociodémographiques sont différentes de celles des groupes majoritaires qui viennent justement avec leur lot de particularités. Donc, c'est vraiment la diversité. À l'Université Laval, il y a une très belle diversité. On va avoir des populations autochtones, on va avoir des populations africaines, on va avoir des étudiants, étudiantes québécois, québécoises aussi, des personnes, des musulmans, des chrétiens catholiques. Donc, c'est vraiment ça qui fait la diversité. Donc, c'est aussi de respecter cette diversité-là pour permettre à l'individu de s'épanouir dans un environnement. Et ça nous amène justement à l'inclusion qui est la mise en place là de cet environnement qui accueille, qui respecte, qui valorise la diversité pour que tout le monde ait le même sentiment qu'il et elles sont à leur place. C'est-à-dire qu'on va offrir aux musulmans l'opportunité de pratiquer. Ici, à l'université, il y a par exemple des personnes, des services qui sont responsables sensibiliser justement pour des suivis dans ce sens, offrir justement des possibilités pour ces groupes-là d'avoir des locaux pour leurs rencontres, parce que justement, c'est cette diversité-là qui doit être respectée pour que chacun ait le sentiment d'appartenance à l'Université Laval et que ces personnes-là aient la conviction, aient le sentiment qu'elles peuvent participer, qu'elles peuvent contribuer et se mériter la reconnaissance pour cette contribution. Donc, c'est vraiment important quand on parle d'inclusion que l'organisation accompagne et qu'elle offre justement aux personnes concernées des mesures pour favoriser leur bien-être et leur accomplissement. Donc, en bref, c'est un engagement soutenu qui vise l'accueil, l'intégration, l'accompagnement et le cheminement de tout le monde, là, sans distinction au sein de toute organisation, de toute instance, de tout milieu. Donc, c'est ça vraiment pour résumer, Marie, les concepts d'équité, de diversité et d'inclusion.
Ça va en même temps aussi avec notre vision qu'on a cette année d'avoir une vision intersectionnelle, de vraiment mettre au profit tous ces différences-là, tous ces milieux-là pour les amalgamer, pour faire vraiment d'une organisation qui est à l'écoute des besoins de ses membres. Puis on a eu la preuve aussi en faisant un sondage sur la santé psychologique, sur la formation à distance. Les étudiants, s'ils sont à distance, c'est différent que si c'est sur le campus que tu fais ta session au Canada ou au Québec. Donc vraiment, c'est de maximiser puis de donner les chances égales à tout le monde. Ça se représente aussi en termes d'accessibilité aussi aux cours, parce que c'est très important de le dire aussi.
Absolument, parce qu'actuellement, on est dans un contexte pandémique. Il y a des étudiants et étudiantes qui ne sont pas arrivés à venir sur le territoire canadien, mais qui ont quand même débuté la session, qui suivent les cours justement, comme nous autres qui avons la chance d'être ici et de commencer notre session. On sait déjà combien c'est difficile pour des personnes qui sont au Canada, au Québec, et on pense justement à ces personnes-là qui sont à l'extérieur. Donc, les mesures d'accommodement peuvent être, par exemple, de permettre à ces étudiants et étudiantes d'avoir des enregistrements des cours parce que on en parle, il y a des problèmes de connexion quand vous êtes dans une zone où le numérique n'est pas forcément très évolué. Donc, des étudiants et étudiantes qui n'arrivent pas à se connecter quand il le faut, qui ne suivent pas les cours comme il le faut. Il y a le décalage horaire également. Donc, c'est de mettre en place des mesures d'accommodement là pour faciliter la chose, pour que nous nous retrouvions sur le même piédestal en tant qu'étudiantes et étudiants de l'Université Laval, voulant simplement acquérir une connaissance de bonne qualité. Donc, ce n'est que ça, c'est permettre à chacun et à chacune d'être bien dans son environnement, dans son milieu. Voilà, Marie.
Puis, j'en profite pour mentionner, l'ALLI, depuis l'an dernier, a une politique EDI. En quoi ça consiste, cette politique-là, puis comment est-elle implantée?
Ben, l'ALLI, justement, comme tu le dis, a une politique EDI. Il faut dire que l'université aussi a une politique EDI. Donc, c'est vraiment important pour l'ALLI de se munir de cet outil-là pour essayer de faire ce qui doit être fait en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. Donc, pour te résumer un peu, Marie, en ce qui concerne la politique EDI de l'ALLI, déjà, il faut dire qu'on ne tolère aucune forme de discrimination au sein de l'organisation. Donc, on peut le voir actuellement, on fait beaucoup de choses, beaucoup d'actions pour que les instances soient vraiment représentatives de la population étudiante, de la population que constituent nos membres. On veut également permettre à chacun et à chacune de s'épanouir sans discrimination, que ce soit sur le comité exécutif de l'ALLI, que ce soit au niveau du conseil d'administration, des instances également. On offre l'opportunité à chacun et à chacune de faire son travail. Donc, l'ALLI se doit également d'être un milieu inclusif dans ses pratiques afin que tout le monde puisse s'épanouir dans le respect, la dignité et la reconnaissance des droits et libertés de la personne sans distinction. Donc, on va revenir avec les mêmes éléments fondés sur des distinctions fondées sur l'ethnicité, la couleur, le sexe, donc tout ce qu'on sait, même les convictions politiques, la langue, la condition sociale, le handicap. Donc, on essaie justement de faire un suivi à ce niveau-là pour qu'il n'y ait pas de mal-donne au niveau justement de la politique EDI de l'ALLI, au niveau de l'ALLI tout simplement, c'est créer également un milieu de travail diversifié et inclusif dans lequel les différences individuelle et les contributions de tous les employés sont reconnues et valorisées. Donc, c'est pas parce que je viens d'un pays du Sud, par exemple, que mes interventions seront moins pertinentes. C'est ce qu'on essaie de défendre à l'allié parce que justement, on considère que à compétence égale, nous avons été élus justement pour cette année au niveau du par suffrage universel. Et donc, c'est vraiment important de voir au-delà de ce que la personne a comme bagage culturel, de le considérer, de le respecter et également de lui accorder la place justement qu'elle mérite au sein de toute instance. Donc, au niveau de l'allié également, tout comportement lié à de la discrimination peut entraîner l'imposition de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement. C'est-à-dire que quand une personne, un officier, une officière ou un bénévole, en tout cas quelqu'un qui s'implique à l'allié, a des difficultés et cette personne-là sent qu'elle est victime de discrimination, elle peut saisir justement les instances, par exemple les ressources humaines, les instances qui sont là justement pour gérer ces différents cas afin justement d'exposer son problème. Et ça peut aller jusqu'au congédiement au niveau de la personne qui est responsable de ce sentiment discriminatoire au niveau du sujet. Donc, c'est s'assurer également que toutes les activités organisées par l'allié ou auxquelles elle participe soient représentatives de la diversité dans son ensemble. Ça, vraiment, c'est très important, en tout cas, je sais, pour l'allié, parce qu'on essaie vraiment qu'il y ait une belle diversité. On essaie d'impliquer au maximum la population que constituent nos membres afin que tout le monde, afin de renforcer le sentiment d'appartenance non seulement à notre association étudiante, mais également à l'université et en tant que personne humaine également, pour permettre à chacun et à chacune de s'épanouir au sein de sa communauté.
J'en profite pour dire que dès cette semaine, on débute les portraits d'implication. Donc, sur notre page Facebook, sur notre Instagram, vous allez apprendre à connaître un peu les personnes qui s'impliquent pour l'allier au sein des différents comités, conseils et commissions. Donc, on débute ça la semaine prochaine. Regardez ça. On va faire les portraits de deux personnes à chaque deux semaines environ pour présenter des membres qui s'impliquent et justement pour parler de DI. Ça fait partie de nos actions, puis on commence ça la semaine prochaine. Écoutez toujours Question de savoir. Nous sommes toujours en compagnie de Perpétue pour parler d'équité, diversité et d'inclusion. Juste un petit mot pour vous dire aussi, le programme d'expérience québécoise, c'est un des enjeux de l'allié pour les étudiants qui viennent s'installer au Québec. Présentement, l'allié est à la recherche de vos témoignages. Si jamais vous avez vécu une situation particulière avec le PEC, par exemple, vous avez vécu du stress par rapport à finir vos études plus tôt ou à diplômer plus rapidement jusqu'au 31 décembre 2020, pour avoir les anciennes mesures, on vous invite à nous témoigner ça par courriel aux communications avec un S à commercial allié.ulaval.ca communication.acommercialallié.ulaval.ca. Donc, si jamais vous avez un témoignage à nous faire sur ce que vous vivez en matière de programme d'expérience québécoise, on vous invite à le faire. Mais on va continuer tout de suite. Dans les institutions comme l'Université Laval, il existe des biens conscients liés à l'embauche. Ça fait partie des problématiques qu'on peut avoir avec l'équité, la diversité et l'inclusion quand on n'inclut pas les gens, qu'on n'est pas égalitaire et qu'on n'inclut pas la diversité. Parce que quoi les autres problématiques par rapport à ça et les ressources sur le campus pour quelqu'un qui aimerait s'en apprendre un peu plus sur l'équité, la diversité et l'inclusion?
Ben oui, Marie, il y a quand même, comme tu le dis, plusieurs problématiques qui sont fréquentes en matière d'équité, de diversité et d'inclusion à l'Université Laval. Par exemple, on a la sous-représentation des personnes identifiées comme membres d'une minorité visible ou comme personnes en situation de handicap dans les instances de décision. Pour exemple, là, une petite anecdote, c'est que moi, j'ai fait un documentaire sur la représentativité des minorités dans les instances de décision à l'Université Laval et j'ai eu des témoignages quand même assez décevants qui présentent un portrait décevant de ce qui se passe en matière de DI, que ce soit dans les instances, dans les associations et à l'Université Laval tout court. On m'a dit, j'ai une justement une personne, une étudiante qui me confiait justement qu'elle a dû quitter son association étudiante parce que ses points de vue, ses opinions, ses interventions n'étaient pas prises en compte, n'étaient pas valorisées et qu'elle sentait juste qu'elle tournait sur place, qu'elle n'était pas considérée comme membre de cette association-là. Elle a déjà eu des propos qui l'ont découragée, même venant de l'administration. Donc, comme tu le dis, là, il y a beaucoup de problématiques. Donc, ces personnes, aujourd'hui, on voit qu'on insiste beaucoup sur l'équité, la diversité, l'inclusion, la représentativité dans les instances de décision. Mais une chose est d'être représenté, d'avoir une belle diversité dans les instances. Mais l'autre chose est que ce ne soit pas juste superflu, que ce ne soit pas juste superficiel, parce que si je m'identifie justement comme femme noire et je m'implique à l'Allier et c'est juste pour présenter qu'à l'Université Laval et qu'à l'Allier, la diversité est valorisée, mais que quand je participe, on ne reconnaît pas le travail que je fais. Quand je participe, je dois faire plus d'efforts pour être considérée comme membre de cette association-là. C'est délicat, donc c'est non seulement de la sous-représentation, mais c'est de la non-valorisation justement de ces personnes qui s'identifient comme membres d'une minorité. Et c'est vraiment flagrant à l'Université Laval, là. C'est une situation que les étudiants et les étudiantes vivent pour avoir échangé avec beaucoup de personnes. C'est vraiment réel. On va également avoir des problématiques liées aux relations interpersonnelles, la courtoisie, le civisme, la qualité de l'accueil au téléphone et en personne, le respect de la personne. J'ai déjà eu des témoignages qui me disaient, par exemple, que quand on envoie un CV avec la photo ou le nom de famille, on peut ne pas avoir de retour, mais il suffit juste d'envoyer un CV sans photo, justement, et à partir de ce moment, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas forcément c'est qui avant d'avoir rencontré cette personne-là. Et c'est des choses qui arrivent, des témoignages sont vraiment légion en ce qui concerne ces problématiques-là, le civisme, justement le respect quand on demande si... c'est également un problème d'ignorance parce que quand on demande à une personne issue de la communauté noire si on communique toujours avec des pigeons voyageurs là-bas ou si on se déplace toujours avec les éléphants ou si on dit de nos cheveux qui sont très crépus, si on ne va pas se chercher les poux dans les cheveux et si on dit par exemple que la piqûre ne fait pas mal aux personnes qui ont une peau noire, c'est vraiment des problématiques qui portent même atteinte au respect de la personne parce qu'il n'y a pas à s'attarder sur ces différentes considérations. Donc c'est vraiment important. Il y a également de la discrimination en milieu d'études et en milieu de stage, discrimination basée sur le genre. Le racisme systémique, les biais inconscients, les associations implicites, les difficultés d'accès à un emploi. Quand je parle d'associations implicites, dans une salle, tu peux avoir juste des blancs, moi je le dis comme ça, je m'excuse, qui ne veulent pas faire des groupes de travail avec des personnes noires parce que je ne vois pas de raison, c'est tout à fait incompréhensible, en tout cas de mon sens, mais c'est des choses, moi je dis, il y a eu beaucoup de témoignages par rapport à ça. C'est sûr que c'est toujours bien, on se sent plus à l'aise à se mettre ensemble avec des personnes qui partagent notre culture, qui ont les mêmes hobbies que nous, qui ont les mêmes activités que nous, mais quand c'est clairement perçu que c'est parce que la personne vient de notre culture, de notre pays, on ne doit pas travailler ensemble, c'est assez délicat. On l'a vu dernièrement, le racisme systémique, c'est vraiment, c'est toujours d'actualité là quand on parle de Joyce. C'est pas l'Université Laval, mais je prends un peu cet exemple-là pour le dire, parce que vous venez d'une communauté, on ne vous prend pas au sérieux, on a vu même que ça porte atteinte à la vie de l'individu. Donc c'est vraiment des questions très sérieuses qu'on est en train d'aborder ici. Comme problématique également, on a les questions financières liées au droit de scolarité pour étudiants internationaux. Moi, ma maîtrise, je l'ai payée à 32 000 $. Puis, je travaille 20 heures de l'heure. Je suis étudiante internationale. Je dois être à temps plein parce que je suis étudiante internationale, parce que je dois vite finir ma scolarité. Je ne comprends pas. Au moment où on parle d'équité, de diversité et d'inclusion, on a l'inaccessibilité aux bourses et aux subventions. Quand tu vas sur le bureau des bourses et de l'aide financière à l'Université Laval, quand tu te connectes et quand tu es étudiant étranger, Je crois que tes possibilités se réduisent drastiquement parce que tu ne vas pas forcément voir des bourses pertinentes, de grosses bourses et subventions parce que on parle justement de Canadiens, de résidents permanents et là, on fournit plus d'efforts parce qu'on vient, qu'on est membre d'autres communautés, on vient d'autres communautés justement et c'est difficile justement parce que nous, on exige beaucoup justement des personnes issues de la diversité. En tout cas, c'est le portrait qui s'affiche en tout cas. Et on a également l'écriture inclusive dans les tests, dans les formulaires, si je suis une personne non-binaire. Et puis, sur un formulaire, je vois juste femme, homme, je ne sais pas, non-binaire. Si c'est pour postuler à une bourse, à partir de ce moment-là, je ne postule plus à la bourse. Déjà que ce n'était même pas évident si je ne suis pas canadienne ou résidente permanente. Donc, il y a ces genres de choses qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. On a également les questions académiques et les questions d'encadrement pédagogique. Moi, je te le disais là, Marie, j'ai fait un documentaire et on m'a déjà dit que dépendamment de la couleur de peau, le professeur n'a pas la même considération pour l'élève. Je ne vais pas, c'est vraiment sous anonymat. J'ai même pas écrit le nom de la personne dans mon documentaire parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, c'est vraiment important de savoir que quand on parle d'équité, de diversité, inclusion, ce n'est pas juste de la farce. Il faut aller dans les actes et c'est des problématiques que des personnes vivent au quotidien. Et à partir de ce moment-là, ça détruit le sentiment d'appartenance qu'on peut avoir à une communauté. On parlait récemment de la réforme du PEC. On a marché, on a manifesté, on a tapé. Et le pire, c'est qu'on a choisi, justement, le gouvernement a choisi la pandémie, une période de pandémie pour imposer ça. Au moment où ce sont des personnes, quand on parle, par exemple, quand on prend le cas des étudiants internationaux, pour illustrer un peu ce que je dis, c'est des personnes qui payent plus, qui doivent être à temps plein, qui payent les taxes, qui travaillent, qui n'ont pas accès aux bourses. Mais ces personnes-là, justement, on trouve qu'il faut réformer. Donc, je pense que c'est ne pas tenir compte de tout le droit que la personne là a en tant qu'individu tout court. Et on nous impose ça dans un contexte de pandémie, justement, parce qu'on sait qu'on a d'autres soucis, on sait qu'on ne va pas batailler fort comme ça a été fait l'année passée. Et on voit actuellement le stress que les étudiants et étudiantes vivent. On voit également tout ce que le stress peut causer. On a vu, c'est sûr que ça ne se rapporte pas, ça n'a pas forcément rapport, mais le stress peut même ôter la vie à des personnes. Et comme tu le disais tantôt, Marie, on a un sondage sur la santé psychologique à l'Allier, puisqu'on est en train de lire. Les résultats préliminaires sont quand même alarmants et effrayants. Donc, il ne faudrait pas que le stress s'ajoute justement à ces enjeux liés à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Donc, en matière de problématiques, il y en a vraiment, on ne finirait pas de tout citer, Marie.
Puis, on peut aussi, côté problématique académique, des fois, lorsqu'on vient de l'étranger, nos référents par rapport au plagiat, si Claude Junior serait avec nous, notre VP aux droits étudiants, il en parlerait. C'est un cas qu'on peut avoir. Des fois, les référents au plagiat dans notre pays d'origine ne sont pas les mêmes.
Le plagiat, c'est vraiment important, là, comme tu en parles, parce que moi, là, quand je prends mon exemple, c'est vraiment pas sciemment que je le fais, mais c'est juste que je vis, donc je peux me baser sur l'existant, là, pour évoluer dans mon développement. C'est-à-dire que moi, je vis avec une certaine culture académique. Le plagiat, mais en fait, c'est pas la même définition qu'on a du plagiat quand on est chez nous. Tu exploites des documents, tu mets pas des guillemets à chaque ligne, mais quand tu viens, tu n'es pas forcément sensibilisé à tous ces enjeux-là. Tu peux te retrouver devant le conseil de discipline à cause de ça. Ça cause également du stress, ça, c'est des difficultés au niveau de ton parcours académique. Puisqu'on fait à l'Allier, là, on fait la tournée des doyens et doyennes, justement, pour les sensibiliser sur ces enjeux, essayer de voir comment ces facultés-là peuvent mettre à disposition des outils sur les différentes plateformes, faire des ateliers, des webinaires pour sensibiliser au maximum sur ces enjeux-là. Parce que le plagiat, si c'est une maîtrise ou un doctorat, c'est 2 ans ou 5 ans où tu es confronté à ça, où tu dois faire attention. Les références également, les normes de citation, c'est vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment important pour nous à l'Allier. Donc, c'est ça. On a une vice-présidente aux études et à la recherche, justement, qui prend beaucoup d'initiatives, justement. Ce poste-là permet justement de voir ce qu'il y a à faire, de sensibiliser au maximum les facultés sur ces différents enjeux afin de permettre à nos membres de s'en sortir.
Et je crois qu'on peut terminer sur une note positive. Les actions actions qu'on peut prendre pour avoir plus d'équité, diversité et inclusion à l'allier le campus, selon toi, ça serait quoi?
Oui, il y a quand même beaucoup d'actions au niveau de l'allier. Je vais juste prendre 30 secondes pour parler de quelques ressources qu'il y a déjà à l'Université Laval. Les ressources institutionnelles, on a par exemple le bureau de la vie étudiante qui est disponible justement pour permettre aux étudiants d'avoir des informations pour préparer le séjour. Déjà, avant même qu'on arrive à l'Université Laval, il y a un service d'arrivée, d'accueil, d'installation aux étudiants internationaux, un guide pratique et repère pour vivre à Québec. C'est sûr que la pandémie, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais il y a quand même des ressources. Il y a le programme de jumelage qui permet, moi j'en ai bénéficié, j'ai eu une marraine qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a permis de m'intégrer plus facilement. Il y a des activités de découverte du Québec, des ateliers et conférences, des conseillers aux étudiants étrangers, aux étudiantes étrangères sur rendez-vous, un accompagnement pour le renouvellement des documents d'immigration. Donc, à part le bureau de la vie étudiante, on a également le centre de prévention en matière de harcèlement. Il faut le dire, c'est un enjeu important. Donc, c'est vraiment des services justement qui existent, des services inclusifs, peu importe la diversité culturelle, peu importe le genre ou l'orientation sexuelle. Donc, il y a un service de soutien, de consultation, des outils pour savoir les attitudes en prévention au niveau du harcèlement, comment réagir face à une situation choquante. Il y a des activités, il y a des formations. Il y a également la campagne sans oui, c'est non. Comment faire un signalement, comment faire une plainte. Il y a des boîtes à outils. Tout ça, c'est vraiment sur le site du centre de prévention en matière de harcèlement. C'est une ressource qui est disponible. On a également les associations étudiantes. Il faut savoir que quand on vient à l'Université Laval, si vous êtes par exemple à la faculté des lettres et sciences humaines, il y a des associations qui sont disponibles à vous accueillir, à vous donner justement des conseils, des orientations, les associations facultaires, les associations de programme, les associations spirituelles et religieuses, les associations départementales, parascolaires, les associations d'étudiants étrangers, mettons l'association des Béninois au Québec, par exemple, l'association des étudiants iraniens, iraniennes. Donc, c'est vraiment des groupes qui sont là pour apporter justement des informations, un appui. On a également l'Allié qui chapeaute justement les associations des cycles supérieurs. Et cette année, on a quand même des actions qu'on voudrait justement mettre en place justement en ce qui concerne l'équité, la diversité et l'inclusion. Je serai plus focus sur la campagne qu'on veut faire. Donc, dans le plan d'action cette année, on a la campagne EDI, la campagne équité, diversité, inclusion. Donc, à l'intérieur de cette campagne, comme tu le disais tantôt, Marie, on va pouvoir faire des portraits de nos membres. Et cette émission également, c'est pour lancer cette campagne-là qui va prendre corps justement et va se poursuivre durant toute l'année, durant le temps de notre mandat. C'est un ensemble d'actions justement qui seront mises en place par l'Allié pour permettre d'avoir justement l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, on va également faire une campagne de sensibilisation sur les enjeux de la communauté LGBTQ2IA+. C'est important parce qu'on a un mémoire qui a abordé les enjeux justement et on va se baser sur ce mémoire-là pour faire une campagne de sensibilisation sur les enjeux de cette communauté. Comme action également, donc, c'est représenter les valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion auprès des différentes instances de l'Université Laval. Donc, moi, je siège sur le comité ED de l'Université Laval et ce que ça fait, c'est que moi, je porte les revendications, je porte nos actions au niveau de l'instance EDI de l'Université Laval et en collaboration justement avec cette instance-là, on voit comment on peut faire des choses pertinentes selon les réalités de nos membres. Donc cette année aussi, on a créé un webinaire sur les enjeux EDI qu'on a mis sur le site de l'Allié, justement c'est disponible et également on l'a donné lors de la rentrée UL, donc lors de la rentrée UL en début de session.
Et disponible sur notre page Facebook aussi, si vous voulez le
Page Facebook. C'est vraiment important parce que il y a beaucoup d'informations, les ressources, les problématiques. En tout cas, beaucoup d'informations ont été glanées et mises dans ce document-là. On veut également offrir des journées ou des soirées sociales célébrant la diversité culturelle. Donc, au début de la rentrée, on a eu le pop-quiz sur la diversité. C'est une occasion justement de façon ludique d'aborder ces enjeux-là qui sont quand même délicats et permettre d'attirer l'attention des personnes personnes qui étaient là sur ces différents enjeux. C'est également un moyen de les sensibiliser. Faire une conférence maison, comme on le dit à l'ALI, on a ce qu'on appelle la chaire publique et NEO. Donc avec la chaire publique, on va faire une conférence maison sur le racisme systémique. Ce serait intéressant d'avoir justement des échanges assez intéressants sur cet enjeu-là. Comme action également cette année, on veut revendiquer auprès de l'université des toilettes universelles. Tout le monde ne comprend pas forcément, mais c'est sûr qu'à l'université Laval, il y a des toilettes universelles, mais on juge que ces toilettes sont insuffisantes. Et l'autre enjeu également, c'est qu'on ne sait pas forcément où sont ces toilettes-là. Donc nous, on a rencontré le CODIR justement et on est revenu sur cet enjeu et justement, on suit le dossier. D'autres actions, c'est travailler à l'obtention de la parité homme-femme sur les instances de l'ALI dans une démarche intersectionnelle. Donc c'est vraiment une action importante et je ne sais pas si vous avez constaté, mais on essaie d'équilibrer au maximum au niveau des instances de l'université Laval. On veut également organiser une activité en partenariat avec l'Association des étudiants autochtones. Donc, je sais, on a déjà eu une activité, pas en collaboration avec l'association, mais on avait la chance d'avoir Michel Audet à notre soirée cinéma qu'on a fait le 16 octobre passé, je crois, Marie. On a diffusé sur Zoom et en Facebook Live. C'était vraiment l'occasion de suivre un film. Donc, nous nous lèverons. C'est le nom du film qui parle d'enjeux autochtones. Et on a eu des échanges assez intéressants. C'était une manière pour nous de sensibiliser sur ces différents enjeux-là. Donc, il y a quand même beaucoup d'actions qu'on veut mener et on espère vraiment aller au bout justement de tout ce qu'on fait et on espère vraiment que ça va aider justement à améliorer, à peaufiner, à bonifier tout ce qui se fait en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, non seulement à l'ALI, mais aussi à l'Université Laval.
Excellent. Puis je pense que ça fait pas mal le tour. Comme on l'a mentionné, ce sera quelque chose qu'on va faire durant tout notre mandat. Aussi, mais fin, Perpétue, à question de savoir pour aujourd'hui. On a fait un parcours sur l'équité, la diversité et l'inclusion. On va continuer d'en parler. C'est super important de le mentionner, de le mettre dans nos actions. Comme tu le disais, on a des activités qu'on a fait par le passé pour justement parler d'équité, diversité et d'inclusion. Et on a d'autres activités qui s'en viennent.